Alors le thème qu'il va traiter, c'est certainement un thème passionnant, le troisième baït. Le mot baït là est un peu ambigu, mais enfin dans la tradition juive, il s'agit à la fois du temple et de la période qui entoure ce temple. Alors sommes-nous à la veille d'un troisième temple? J'espère que la réponse vous sera donnée. Et donc c'est avec grand plaisir et une certaine émotion que je passe la parole à Manitou.
Merci. Eh bien, monsieur le rabbin, messieurs les présidents, je vous remercie d'abord de ce que je viens d'entendre. Et je ne vous cache pas que, bien que n'étant pas particulièrement étranger à cette maison, c'est quand même pour ce soir, avec quelques émotions, que je vais prendre la parole sur le sujet qui a été choisi. D'une part, parce qu'il s'agit d'une de nos premières manifestations à Rachi, en ce qui concerne le 40e anniversaire de l'État d'Israël, et 40 ans c'est long, et ceux d'entre nous qui étions déjà conscients de l'importance de cet événement considérable dont je vais essayer de parler ce soir à cette époque, ne peuvent pas ne pas avoir en tête les souvenirs de ce temps-là, lorsque nous avons appris que 2000 ans, plus de 2000 ans, après la grande dispersion du peuple juif, la nation d'Israël se restaurait dans les difficultés que vous savez, extérieures, intérieures, auxquelles il faudra faire allusion immédiatement et tout à l'heure. Et je crois que la massivité de l'événement que nous commémorons, bien que les contemporains n'aient pas toujours le recul suffisant ou nécessaire pour apprécier le privilège de vivre l'époque qu'ils vivent, eh bien, ne peut pas ne pas déclencher, produire l'émotion dont je vous parle. Et à titre personnel, cela se colore du fait que cette soirée se passe à Rachi, bien entendu, et du fait que j'ai ce privilège d'être à la fois membre de la communauté où nous nous trouvons en France et citoyen israélien. Bien évidemment, comme vous le savez, on ne peut pas parler de tout à la fois, mais on ne peut pas éviter le fait que les sujets que nous allons traiter, en tout cas les quelques remarques ou analyses que je voudrais vous proposer, n'impliquent des passions. Parce que lorsque nous vivons un événement de changement d'identité, ce que j'ai l'habitude d'appeler de mutation d'identité, bien que logiquement ces deux termes sont en collision de concepts, eh bien, il y a inévitablement un monde de passions tel que chacun les vit à sa manière, et puisque notre vie s'insère toujours dans la durée, ça change parfois le long de la durée, ça se nuance le long du temps de chacun, mais je vais essayer de me tenir à un niveau le plus abstrait possible, abstrait dans le sens étymologique, c'est-à-dire un peu en recul des passions, de l'immédiateté que nous avons en mémoire, que nous avons en l'esprit, de telle sorte de pouvoir me relier aux enseignements de la tradition, et elle est très longue, très ancienne, concernant ce moment que nous vivons, d'avoir, encore une fois, le privilège de vivre un 40e anniversaire de l'apparition de la société israélienne comme nation hébraïque après 2000 ans et plus de temps juif. Je le lance très, très rapidement, j'aurais à consacrer une partie des premières analyses à la confrontation, si j'ose dire, de ces trois termes qui vont revenir très souvent dans nos propos ce soir. Hébreu, juif, israélien. Nous avons tous conscience qu'il y a premièrement synonymie à beaucoup de niveaux, qu'il s'agit de la même identité, mais que cependant à travers l'histoire et à travers les grands événements de passage d'époque à époque de l'histoire, de notre histoire si longue, eh bien il s'agit quand même de trois indices d'identité différents de la même identité. Les choses ne sont pas simples, mais rien de ce qui concerne Israël et les Juifs n'est simple, comme vous le savez. Et il faut nous relier à la réalité comme nous la connaissons, comme nous la vivons, comme l'histoire nous la propose ou impose parfois. Et c'est un peu à ce niveau que j'essaierai, d'une part, de m'en tenir au contenu de messages, d'informations, de connaissances que certains textes auxquels je vais me référer nous transmettre au sujet de l'événement dont nous parlons, le début de la troisième maison d'Israël, et je m'expliquerai assez rapidement dans quel sens j'ai pris ce terme, et d'autre part, de ne pas oublier que pour nous, juifs, il ne peut pas s'agir d'idées seulement, d'idées abstraites seulement. Nous sommes insérés dans une question qui, par rapport à notre longue histoire, est une question d'existence. Et je ne tomberai pas dans le pathos de dire de vie ou de mort, parce que la vie d'un peuple qui a une dimension d'éternité ne se définit pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, d'existence et de conditions d'existence. Et nous saurons donc, et j'y ferai allusion quand cela sera nécessaire, que nous avons à rencontrer des problèmes graves et qui parfois déclenchent des options passionnelles qu'on ne peut pas ne pas savoir exister, mais que nous essaierons de laisser en marge quand même de l'analyse proprement de connaissance de ce sujet. Une première remarque sur le sens de l'expression « la troisième maison d'Israël ». Évidemment, il y a une ambiguïté. S'agit-il du Beth Amigdash, du Temple, puisque, comme vous le savez, le Temple se dit en hébreu et dans les formules traditionnelles, la maison de la sainteté. Il y a eu le premier Temple, qui était le Bayit Rishon, la première maison, le deuxième Temple, la deuxième maison, le Bayit Sheni. Y a-t-il déjà les signes plus qu'annonciateurs, puisqu'il s'agit d'existence d'un rassemblement qui ne s'est pas fait depuis 2000 ans, un Bayit Shlishi, une troisième maison? Mais c'est évidemment pas d'abord dans ce premier sens du temple, le Beit HaMikdash, que j'ai pris ce terme, puisque je parle de la réalité de l'expression la maison d'Israël, c'est Beit Israël. C'est le fait qu'après un long temps d'exil, l'identité Israël se reconstitue, se restaure. Et de même qu'il y a eu Beit Israël la première fois au temps du premier temple, Beit Israël la deuxième fois au temps du deuxième temple, le deuxième royaume de Juda, il y a déjà Beit Israël, la maison d'Israël, alors même que, je veux dire avant même que l'on ne parle de la question du temple à proprement parler. Seulement, parmi toutes les sources, elles sont très nombreuses, qui parlent du troisième retour et de la troisième construction de la maison d'Israël, qui implique à un certain niveau du programme messianique le Beit HaMikdash, le temple à proprement parler, mais tout est commencé. Je veux dire que dès que quoi que ce soit a commencé de ce programme, c'est que tout est commencé. En particulier, le premier événement dont je veux encore rappeler la massivité, que pendant 2000 ans, le rassemblement des exilés ne pouvait pas se faire, et puis qu'il s'est fait. C'est l'événement qui est son propre signe à ce niveau. Et pour une tradition qui commence par affirmer que l'histoire qu'elle vit est sous le regard du Créateur et de la providence de la Shrina, de la présence de cette providence, même si elle est cachée, et comme vous le savez, c'est le postulat premier et le plus profond de toute tradition juive, de quelque nuance qu'elle soit, eh bien des événements d'une telle massivité ne peuvent pas ne pas avoir leur sens traditionnel. Je sais que les modernes ont une certaine réticence à ce que j'appellerais, par un mot que nous savons être un barbarisme, mais que nous devons à notre maître commun, Jacob Gordin, Zichrono Libracha, l'historiosophie, c'est-à-dire le sens profond des événements de l'histoire. Et nous savons que les modernes sont très réticents à cela, parce qu'on leur a proposé tellement d'explications de l'histoire qui ont abouti à des catastrophes et qui ont abouti à des systèmes idéologiques qui ont basculé dans des positions politiques qui faisaient évacuer la morale de l'histoire, et nous devons en prendre acte, que c'est avec beaucoup de précaution, de méfiance, de prudence, que nous devons manier ces catégories de l'historiosophie, je m'excuse, c'est-à-dire de la signification au niveau de l'histoire des destinées, des événements que nous vivons. Mais il faut savoir que la conscience de l'Etalmid Chacham, nous allons citer l'Etalmid Chachamim, les sages qui ont parlé des sources de la révélation au sujet de notre sujet, que le Talmid Chacham, dans son étude, dans l'atmosphère de son étude, baigne dans cette évidence qu'il y a un lien profond entre la vérité et la réalité. Nous sommes des monothéistes. Il n'y a pas de dichotomie entre la réalité et la vérité. Et lorsque la vérité parle de la réalité, c'est de la réalité vécue qu'elle parle. Je sais encore une fois que pour le moderne, une telle catégorie, un tel postulat d'évidence est non pas seulement étrangère, le plus souvent suspecte. J'ai bien conscience qu'en atmosphère de culture occidentale, cela peut paraître, je vais mettre des guillemets, mythique, à force d'être mystique, mais je vous proposerai une définition de la mystique qui s'ajoutera peut-être à toutes les définitions classiques. Bien, on dira de quelqu'un qu'il est mystique lorsque tout simplement il croit vraiment en ce en quoi il croit. Or, je parle de la tradition juive et de ce qu'elle dit d'elle-même et de ce qu'elle croit d'elle-même. Or, précisément, parmi toutes les références, les sources, et elles sont très nombreuses, qui parlent de l'éventualité du retour du troisième exil, du commencement de la troisième maison d'Israël, eh bien c'est toujours dans ce sens de Beth Israël, la maison d'Israël, que l'expression est prise, mais toujours en référence au Beth Amidash. J'ai choisi une de ces références, ce sera la première analyse que je vais vous proposer, dans un grand commentateur des textes de la Révélation, qui est Rabbeinu Bechaye, et qui parle de ce problème à propos de la vision de Jacob, dont je vous citerai immédiatement cette référence. Avec comme principe de ce que je voudrais essayer de transmettre, sous forme de deux remarques sur ce premier point, m'excusez une minute, mais c'est le climat. Par rapport à notre référence, qui parle donc de cette troisième maison d'Israël, nous avons encore une fois le privilège de connaître, d'être contemporains, témoins, participants et acteurs de ce qui se passe dans cette mutation énorme de l'identité Israël, hébreu, juif, israélien, et j'y reviens, et je reviendrai. Eh bien, ils en parlent comme un événement irréversible, définitif. La troisième maison d'Israël, et avec toutes les connotations que cette expression exprime, est toujours citée dans nos textes comme un événement ultime, définitif, irréversible. C'est la première remarque. La deuxième remarque, et c'est ainsi que j'en traiterai d'ailleurs, la deuxième remarque, c'est que dans de tels problèmes, il faut savoir, et si nous en avons le temps, je me référerai à un exemple dans la discussion talmudique, à propos, apparemment, d'une question de rites qui serait loin de notre sujet, mais qui est en plein dans notre sujet, que, dans de telles questions, ni l'érudition, c'est-à-dire la référence à la lecture des textes, et il faut être érudit pour lire les textes dont on parle, ce sont les textes de la révélation hébraïque, ni l'idéologie, ce serait le terme moderne pour parler de la capacité de raisonnement de l'analyse d'une réalité, que ni l'érudition, le recours au verset ou au commentaire du verset, et quelle que soit l'honnêteté de l'érudition, ni la clarté du raisonnement pour exposer une prise de position à ce sujet ne peuvent trancher. C'est un enseignement du Talmud que je vous cite. Iba etema kra, iba etema sevra. Lorsque deux sages sont en controverse, alors tout de suite, la dialectique propose, si tu veux, nous discuterons au niveau du verset, nous allons citer un verset, et, ou si tu veux, Svara, ça veut dire le raisonnement, nous allons discuter au niveau de la raison. Et nous voyons que ni l'érudition, ni le raisonnement ne peuvent trancher, il y a une option de foi. Et c'est la deuxième remarque. Et c'est donc aussi à ce niveau, et dans cette catégorie que j'en parlerai, d'abord parce que nous avons peu de temps. Et seulement, il faut savoir que lorsqu'on dit, on le dit souvent, que que dans la tradition juive authentique, lucide, adulte, toutes les opinions ont place, ça ne veut pas dire que toutes les opinions ont force de loi. Et il est bien évident, en me référant à cet exemple de dialectique que j'indiquais tout à l'heure dans cette première remarque, que ces deux positions, nous pouvons les rajeunir dans l'événement que nous vivons et que nous commémorons ce soir. Est-ce que nous devons considérer les événements qui font que du sein du peuple juif, la nation hébraïque, s'est restaurée 2000 ans après, dans les commencements d'une histoire qui est difficile, parce que c'est un, selon l'expression d'ailleurs des prophètes, un véritable engendrement dans le sens d'un accouchement dans la douleur, et dans les douleurs, et des problèmes intérieurs et des problèmes extérieurs, doit-on considérer cette troisième, ce troisième État juif qui s'appelle l'État d'Israël comme la troisième maison d'Israël ou pas? Alors il est évident que ce sont les passions auxquelles je me référais tout à l'heure, que la discussion est inévitable. Les uns diront non, les autres diront oui. Et quel que soit le nombre des nuances d'opinion qu'il peut y avoir entre ce non et ce oui, en réalité il n'y a que deux opinions, ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Il faut le savoir clairement. Et avec référence soit à l'érudition, soit au raisonnement. Mais c'est pourquoi j'ai tenu, dès le début, d'indiquer qu'en scène dialectique talmudique, ça ne suffit pas. C'est que ni par l'érudition, ni par le raisonnement, on pourra trancher. Et je crois que j'ai évacué peut-être un pan énorme de ce problème. Pourquoi tant de consciences juives nobles ne se réfèrent pas du tout, nobles d'autre part, ne se réfèrent pas du tout à l'événement que je désigne comme un événement réel, que nous sommes au commencement de la troisième maison d'Israël. Et je vous rappelle que, d'après nos textes, il en est ainsi. C'est irréversible, définitif et ultime. Vous voyez donc à quel niveau de gravité nous devons nous approcher de ce problème. Je disais donc qu'il y aura l'opinion oui, l'opinion non, mais il y a toujours la règle de la halakha. C'est-à-dire, et la tradition tranche de quelle manière? Si nous en avons le temps, je vous donnerai un de ces exemples. Quand on nous dit souvent, et on a raison de le dire, qu'effectivement la tradition juive est une tradition à multiples facettes, parce que la vie est à multiples facettes, et que l'on cite « Elou, Ve'elou, Dibre, Elokim, Chaim », ceux qui disent cela, et ceux qui disent cela, et c'est le contraire, cela et cela, ce sont les paroles du Dieu vivant, c'est écrit comme ça. Mais il faut savoir, il faut comprendre ce qui est écrit, ce sont les paroles du Dieu vivant. Si ce sont des paroles vivantes, cela entre dans cette dialectique. Mais ça ne veut pas dire n'importe quoi à propos de n'importe quoi. Est-ce que c'est clair ce que j'ai voulu expliquer, okay? Lorsqu'on dit on peut dire n'importe quoi de n'importe quoi, c'est faux. On ne peut pas dire n'importe quoi de n'importe quoi. Il y a, de façon légitime, telle facette ou telle facette, l'une et l'autre qui pourraient être la vérité dans telle ou telle condition, et pas plus. Et ce sont les paroles du Dieu vivant qui sont les paroles du Dieu vivant. Ce n'est pas n'importe quelle parole juive qui est parole du Dieu vivant. Je tenais à le signaler, et dans l'exemple dialectique que j'ai signalé, Rabbi Yoshua ben Lévi dit non. Lorsque on est seulement au soir, bien sûr, le jour nouveau a commencé, puisque, comme vous le savez pour nous, le jour commence au soir, la nuit d'abord, la journée après. Et lorsqu'on est déjà arrivé au Erev, au crépuscule du soir, c'est déjà la délivrance du lendemain matin. Mais il faut passer à travers la nuit. L'un dira, oui, ça a commencé. Et l'autre dira, non, il faut attendre le lendemain matin, lorsque le soleil se dévoilera, pour savoir si le soir était vraiment le soir. Ce sont ces deux opinions-là. Cela a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? L'un dira, la nuit, et c'est la nuit. L'autre dira, le jour qui se lève commence cette nuit-là. Et il n'y a pas que la nuit en Israël, le soir. Vous savez aussi, il y a le clair de lune. Mais cette discussion-là que je vous cite, Rabbi Yochanan dit, qui aura droit au monde à venir? Qui aura part au monde à venir? C'est celui qui considère que la délivrance du soir, c'est déjà la délivrance, bien que le lendemain matin seulement, lorsque la lumière se dévoile totale, elle est totale. C'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ben Levi dit, ah non, puisque la délivrance du soir n'est pas sûre parce qu'elle n'est que le commencement d'elle-même, il faudra attendre le dévoilement du soleil pour savoir si le soir était vraiment le soir. Et les deux opinions nous sont données parallèles, ni par la référence au verset, je ne vais pas vous prendre trop de temps, ils citent le même verset. Ils le lisent tous les deux, normalement, comme on peut le lire comme ça ou autrement. Mais c'est donc, encore une fois, c'est des paroles vivantes d'un verset vivant, lu ainsi ou autrement. Et ni le raisonnement qu'il nous propose, très très simplement, Rabbi Yochanan dira, bien que la délivrance du soir n'est que la délivrance du soir, et qu'elle ne sera excellente que le matin, c'est déjà la délivrance. Rabbi Yochanan ben Levi dit, puisque la délivrance ne sera excellente que le matin, celle du soir n'est pas délivrance. Et ce sont des paroles du Dieu vivant, c'est dans le Talmud, les deux, l'une et l'autre. Mais on oublie que la halakha a tranché. Et la halakha a tranché pour Rabbi Yochanan. En effet, la discussion était de savoir si le soir, on doit lire d'abord le Kriyat Shema et ensuite la Tfila, ou bien si on devait dire d'abord la Tfila et ensuite le Kriyat Shema. Ça s'appelle, dans les catégories talmudiques, joindre la Geoula, la référence à la délivrance, à la notion de délivrance, à la Tfila, à la prière. Pour le matin, il n'y a pas de problème, on est sorti de la nuit, on sait qu'on est délivré de la nuit, c'est dans la symbolique du rite. L'étude est beaucoup plus ponctuelle et profonde. Et donc le matin, c'est clair. Je sais que je suis sorti du monde de la nuit. Je peux donc me référer à cette expérience que j'ai eue. Il y a providence, je suis sorti de la nuit, je peux prier, c'est-à-dire demander. Mais le soir, je ne sais pas si je sortirai de la nuit, puisque j'entre dans la nuit. Est-ce que j'ai le droit de me référer à la délivrance du matin, alors que je suis à l'entrée du soir, à l'entrée de la nuit? Rabbi Yochanan ben Levi dit donc, on fera la prière d'abord et l'invocation de l'unité de Dieu ensuite. Les choses sont beaucoup plus amples que ça, mais je schématise. Et voilà, c'est l'exemple que je voulais citer. Et la tradition dira, Elouv, Elouv, Dibrelokim Chaim. Cela et cela, c'est les paroles du Dieu vivant. Mais la halakha a tranché. On fait comme Rabbi Yochanan dans le rite. Vous voyez la comparaison historiosophique que je voudrais vous proposer sur cette remarque. Il y a la position de ceux qui disent la délivrance du soir n'est pas une vraie délivrance, on attendra les événements de dévoilement où ça sera évident pour tous en termes un peu Talmud Torah, j'ai pas dit catéchisme, quand le Messie viendra, okay. Ça c'est Rabbi Yochanan ben Levi, ça se rattache à l'opinion de Rabbi Yochanan ben Levi. Rabbi Yochanan dit non, ça a commencé, c'est ça qui a commencé. Et qui aura part au monde à venir? Celui qui, le soir, dit d'abord Kriyat Shema, fait référence à l'expérience de la délivrance de l'exil d'Égypte, la Geoula, Gaal Israël, et immédiatement après, prie le soir aussi, et pas seulement le matin. J'ai bien conscience qu'il faudrait des heures pour vous expliquer ces quatre lignes de Talmud, mais j'espère que vous avez retenu l'atmosphère générale de cette dialectique. Voilà la remarque que je voulais donner. Et je voudrais, si vous voulez même, pour mettre les points sur les i, nous verrons tout à l'heure qu'un des grands problèmes de cette troisième maison d'Israël, je le dis déjà à l'avance, c'est les problèmes de clivage, de rupture, de fracture de cet ensemble qui se rassemble sont multiples. Et nous en connaissons au moins trois qui sont graves. La tension entre les juifs qui venaient du monde occidental et ceux qui revenaient du monde oriental, on les appelle par des termes trop schématiques, Ashkenazim d'un côté, Sfaradim de l'autre, grâce à Dieu il y a déjà des mariages mixtes, et les enfants vont bien. Mais c'est un problème grave, mais il n'est que grave, si j'ose dire. Il y a aussi, comme problème, le problème diaspora Israël, ceux des juifs qui, pour quelles que soient les raisons, sont en dehors d'Israël, et ceux des juifs qui, quelles que soient les raisons aussi, sont en Israël, Israël diaspora, c'est un problème grave, on en parlera, il faut en parler, c'est pas vraiment le sujet, mais il faut en parler, et puis, encore une fois, il n'est que grave. Je
Je me souviens, quand j'étais très enfant au Talmud Torah, c'était ma communauté natale, mais vraiment très jeune, je me souviens que le rabbin nous avait fait étudier un verset des prophètes. Velo idah mimenu nidah. Il m'est arrivé de citer cela parce que c'est significatif. Et aucun ne sera repoussé au temps du retour. Alors il disait, avec sa manière traditionnelle d'expliquer, il disait, ça veut dire, ils reviendront jusqu'au dernier. Alors un enfant du Talmud Torah, il m'a dit, possible, c'est moi d'ailleurs, mais je ne me rappelle pas. Il avait demandé, c'est possible, ils reviendront jusqu'au dernier. Nous savons maintenant que c'est invraisemblable. Okay? Mais le prophète a dit. Et le rabbin avait répondu, ils reviendront jusqu'au dernier qui reviendra. Un point. Et ça veut dire tous, puisque tous sont dans le cas. C'est pourquoi je dis que c'est un problème grave. Mais il est que grave, pas plus. Je crois que le véritable problème, grave, pas d'adjectif, le vrai problème, c'est la cassure, la fracture entre ce qu'on appelle les religieux et les non-religieux. Et que ce soit chez les Ashkenazim ou chez les Sporadim, et que ce soit en Israël ou dans la diaspora. Nous verrons que peut-être dans la société israélienne, le problème est moins grave, malgré les apparences, parce qu'il y a un avenir possible, et qu'il est peut-être plus grave en diaspora, mais quoi qu'il en soit, le grave problème intérieur de cette troisième maison d'Israël, c'est cette cassure entre deux parties du même peuple, l'une qui se définit comme disciple de Moïse, la Torah, et l'autre qui se définit comme descendant des patriarches, le peuple, et pas plus, et pas autre chose. Et à l'échelle individuelle, cela ne serait pas très grave, puisque c'est notre identité, cette tension d'ambivalence dans l'identité elle-même. Nous sommes à la fois les descendants des patriarches et ceux qui s'adjoignent à nous, et à la fois les disciples de Moïse. À l'échelle individuelle, il est normal que cette, encore une fois, tension dans la même identité soit vécu chacun dans l'indice qu'il vit. Mais à l'échelle collective, cela fait problème. Et je m'y référerai tout à l'heure. Et voilà pourquoi je crois qu'il faut dire que c'est sur cet écran de gravité que les autres problèmes prennent leur signification immédiate. Je répète cela. Très, très schématiquement, Ashkenaz Farad, et ça veut dire 125 tribus différentes, ne croyez pas que c'est si simple que ça. Bon, c'est pas grave. Diaspora Israël, en fin de compte, c'est pas grave, parce que même si nous ne sommes pas unis, le monde extérieur se charge dans les occasions qu'il choisit de nous unir, nous le savons. Et je crois que ça a dû se dire entre Français et Israéliens cette semaine à Jérusalem, inévitablement. Mais là où cela est, c'est vraiment grave, c'est que nous risquons de faire éclater ce que la révélation nous a enseigné d'unir les descendants des patriarches et les disciples de Moïse. Et peut-être que si de notre temps ce problème se révèle de façon aussi grave, c'est aussi un signe paradoxe, un signe positif que nous sommes vraiment dans le temps où l'identité hébraïque émergent de nouveau, puisque ce sont ces problèmes qui affleurent et qui émergent de façon aussi intense. Or, on ne peut pas nier que 40 ans après, nous nous trouvons... 40 ans, vous savez, c'était les 40 ans du désert, entre l'ancien monde de l'Égypte et le nouveau monde d'Israël, si j'ose dire, pour employer ces expressions. Eh bien, nous nous trouvons dans une situation qui devient aiguë. C'est-à-dire les positions se radicalisent. Elles se radicalisent des deux côtés. Il y a un risque de culture camp, pour employer ce mot qui était à la mode il y a 40 ans, qui affleure au niveau des municipalités. Et donc, il était nécessaire de le signaler. C'est un des problèmes que j'essaierai d'éclaircir par rapport à notre sujet. Voici donc cette première référence avant deux schémas qui expliquent cette mutation d'identité dont je vous parle, hébreu, juif, israélien, et avant la citation des deux problèmes principaux, qui sont ceux de la troisième maison d'Israël, les frontières. Les frontières, je veux dire, c'est pas un problème tellement géographique ou politico-géographique, c'est et l'environnement, l'hostilité de l'environnement extérieur. Et d'autre part, à l'intérieur, cette cassure de notre identité profonde, qu'elle soit hébraïque, juive ou israélienne, le problème d'Atim, Chilonim. Voilà un peu le programme sur lequel nous allons réfléchir rapidement. Alors, la première citation se trouve à propos de l'idée de la notion de troisième maison d'Israël, se trouve donc dans Rabbeinu Bechaïr, à propos du verset 17 du chapitre 28, dont je vous dirai quelques mots très rapidement. Voici, lorsque Jacob est parti pour son exil, il a eu une vision à Bethel, la fameuse vision de l'échelle de Jacob. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a pris acte qu'alors qu'il ne le savait pas, il se trouvait dans un endroit où la révélation était réelle, bien que cachée. Il a eu une révélation du sens de la destinée de sa descendance. C'est lui, Jacob, qui va fonder le peuple d'Israël. Après la sélection d'identité qui commence en Abraham, puis en Isaac, c'est Jacob qui devient Israël. Et cette révélation, bien que cachée, lui est communiquée dans un rêve, dit apparemment le texte, j'ouvrirai une petite parenthèse, cette révélation est indéniable. Voici quel est le verset. Alors il se réveille et, verset 17 du chapitre 35, « Vaïra vaïoma, il eut crainte et il dit, « Manora amakomaze, combien est redoutable cet endroit, enze kim betelokim, cela ne peut être que la maison de Dieu, veze shahar hashamayim, et cela est la porte du ciel. » Petite parenthèse que je voudrais vous citer, c'est que le texte dit qu'il a eu un rêve. Oui, je cherche le verset. Voilà. Il a eu un rêve, verset 12 du chapitre 28. Vayahalom vehines ulam tabartza. Et on explique habituellement, et dans son rêve, voici qu'il y avait une échelle plantée en terre et la tête dirigée vers le ciel. Communication entre le ciel et la terre. Et nous sommes habitués à lire cela ainsi. Sans prendre garde que ce n'est pas écrit ainsi. Il n'y a pas écrit « Vayahalom, il rêva » ou « Bahalomo » et dans son rêve, il y avait une échelle. Il y a écrit tout simplement « Il rêva, alors il y a eu une échelle entre le ciel et la terre ». Le verset dit un peu autrement que ce qu'on croit qu'il dit. Celui qui a une capacité de rêve fait établir communication entre la terre et le ciel, et le ciel et la terre, et tous les midrashim qui en rendent compte vont dans ce sens. Quelle est cette échelle? Un midrash dira, c'est la prophétie. Un autre midrash dira, c'est la prière. Un autre midrash dira, c'est la fumée du sacrifice ou de l'encens qui monte de terre vers le ciel. Il est bien évident qu'il s'agit de la communication entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre la vérité et la réalité. Alors, dans sa vision, il a vu, dit le midrash, le sens de la destinée de sa descendance, les exils et les retours, jusqu'au dernier. Rabbeinu Bechaïr, reprenant ce verset 17 du chapitre 28, nous dit, il y a trois fois le mot de « zé » dans le même verset. « Vaïra vaïomar manora makoma zé » cet endroit, combien il est redoutable, « enze » cela n'est que, ne peut être que la maison de Dieu, « veze shahar shamayi » et cela est la porte du ciel. Il nous dit là, il y a allusion aux trois maisons d'Israël. La première, qui est le temps du premier temple, Manora Hamakomazi, combien est redoutable cet endroit. La deuxième, le deuxième temple, Enzekim Betelokim, ça ne peut être que la maison de Dieu. Et la troisième, cela est la porte du ciel, c'est pour le troisième temple, la troisième maison d'Israël, et il ajoute, qui ne sera plus jamais détruite. Si nous avions le temps, je vous lirais ce texte à la loupe, sans loupe. Vous avez remarqué que ce soir, j'ai pas de loupe. Mais je vous donne la référence. C'est donc le Rabbeinu Bechaïr sur le chapitre 28 de la paracha de Vayet. Voici pour la première remarque. J'aborde maintenant un premier schéma de ces parallèles qui nous sont donnés par toutes les sources auxquelles je fais allusion entre le fait qu'Israël a été fondé par trois patriarches, comme on dit en français, les trois pères, les trois engendreurs de l'identité d'Israël, et le parallèle de ce qui se passera dans l'histoire du peuple d'Israël à travers les trois exils, les trois grands exils, les trois empires qui sont quatre, il y a toujours une dialectique de quatre et trois, mais je simplifie, les grands empires qui ont été en fait les grandes civilisations, des grandes époques que nous avons traversées dans notre histoire, et les trois patriarches. Et c'est un peu une de ces indications d'historiosophie dont je vous parlais tout à l'heure, et auxquelles nous sommes habitués, familiers, profondément dans nos études et dans l'atmosphère de l'étude traditionnelle. Ça demande beaucoup de temps pour rendre compte des analogies et des parallèles de détails, mais je me bornerai aux grandes catégories. D'abord, la première remarque sur ce sujet, ce n'est pas habituel qu'une tradition soit fondée par trois fondateurs. Toutes les autres traditions, nous les connaissons, à partir d'un fondateur, qu'il soit le père engendreur ou le maître enseignant. Je ne donnerai pas d'exemple, tout le monde les connaît. Et voilà que dans le cas d'Israël, il y a trois fondateurs, Abraham, Isaac, Jacob. Et c'est que, au temps de Jacob, lorsque l'épurement de la sélection d'identité des fils des pères est achevé, que Jacob, le troisième des patriarches, reçoit le nom d'Israël et fonde la nation d'Israël, le peuple d'Israël. Quelques siècles après, très peu de siècles après d'ailleurs, Moïse, le maître de ce peuple, non pas l'engendreur, mais le maître, donne la Torah à cette nation d'Israël. Remarquez que cette nation d'Israël, fondée par trois fondateurs, c'est notre problème, existe comme nation avant même que Moïse ne lui transmette la Torah. Nous avons là deux modèles. Deux modèles qui sont les modèles de nos problèmes. D'une part, Abraham comme figure du père engendreur fondateur, du peuple comme peuple, et d'autre part Moïse comme maître et enseignant, révélateur de la Torah. Ça ne signifie pas qu'Abraham n'ait pas une capacité de prophète, c'est le premier homme dans la Torah à être nommé prophète, ça ne signifie pas que Moïse n'aurait pas capacité d'être fondateur de peuple, Dieu le lui propose. Mais le peuple était déjà irréversiblement celui des descendants des patriarches. Mais ce sont deux fonctions différentes. Et j'espère montrer assez rapidement que les tensions d'identité de cette troisième maison d'Israël expriment, dévoilent au niveau le plus fort notre carte d'identité d'Hébreux en tant que fils des patriarches et disciples de Moïse. D'essayer de raccorder, mettre ensemble les problèmes qui, dits par les journaux ou lus dans les journaux, ont une apparence de faits sociaux et politiques déspiritualisés, je veux dire sans signification spirituelle, sinon politique et sociologique, et d'autre part, les grands enseignements de l'esprit que la Torah nous donne concernant notre identité. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, en citant notre maître, M. Bordin, de l'historiosophie. C'est-à-dire un effort de réflexion pour trouver le lien entre l'enseignement de la Torah comme Torah, ce que Dieu dit de l'histoire d'Israël dans la Torah, et d'autre part les faits de la réalité que nous vivons, en tout cas dans les moments privilégiés. Il ne va pas ne pas y avoir de moments aussi privilégiés que le passage de l'identité juive à l'identité hébraïque de nos jours qui s'appelle Israël. Et effectivement, nous avons d'abord été les Hébreux. Ce n'est que tardivement que nous avons été les Juifs. Quelle différence entre ces deux termes au niveau de l'identité profonde? Eh bien, le peuple hébreu se connaît comme un peuple, comme une nation. Et alors que le peuple juif, ce sont les rescapés des Hébreux, comme peuple dispersé, greffé sur des identités de cités étrangères. Un Hébreu, du temps des Hébreux, n'a jamais été qu'un Hébreu, un point. Même lorsqu'un Hébreu voyageait, Il se connaissait, il était connu comme un Hébreu en voyage, même si le voyage durait longtemps. Et même si un Hébreu parlait une langue étrangère, c'était un Hébreu qui parlait une langue étrangère, enrichi par elle. Et vous connaissez l'enseignement du Midrash sur Joseph et le don des langues que la tradition chrétienne a repris dans un tout autre sens, le don des 70 langues. Et effectivement, l'Hébreu était capable de parler toutes les langues de la terre. Mais lorsque c'était un Hébreu qui parlait les langues de la terre, il communiquait dans la langue en question quoi que ce soit de la vérité unique pour ce peuple. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est l'homme du peuple étranger qui parle de ce que la Bible des Hébreux a à dire, il projette son propre paganisme sur la révélation monothéiste. C'est aussi un des problèmes que nous vivons de notre temps. Mais en tout cas pour dire que l'Hébreu est capable des langues, mais comme Hébreu, et il sait que les langues dont il est capable sont des langues étrangères. Imaginez le malentendu fin qu'il y a entre nous ce soir. Je vous parle en français. Essayez de faire l'effort d'imagination d'entendre un Hébreu parler une langue étrangère. Ça vous paraît vraisemblable. Okay ? Surtout quand je vous dirai que si je parle français, c'est pas parce que je suis né en France. C'est parce qu'il y a eu un incident dans l'histoire de France, la colonisation de l'Algérie. Je suis dans l'Algérie, alors je parle français parce que le français était en Algérie. Mais en réalité, ma langue, c'est l'hébreu. Et ça ne s'entend pas. Vous avez remarqué ? Enfin, en tout cas, pas tellement. Et bien voilà, c'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'un hébreu en voyage, c'était un hébreu en voyage. Autant des juifs. Après la destruction du premier royaume de Juda, et puis surtout du deuxième royaume de Juda, les Juifs étaient originellement des Judéens, les derniers des Hébreux. Juifs, ça veut dire Judéens, étymologiquement. Et les Juifs sont les Hébreux de l'exil, tout simplement. Or, la grande différence, c'est que l'Hébreu n'est qu'Hébreu, un point, alors que le Juif a toujours été d'identité mixte. Nous avons toujours été judéo quelqu'un d'autre. Et comme le voyage a duré si longtemps, les tensions d'identité dans cette identité de trait d'union judéo quelqu'un d'autre avaient tendance à s'inverser le plus souvent. Or, voici qu'il y a 2000 ans, l'hébreu est devenu juif. Et de notre temps, le juif redevient hébreu, et c'est cela la troisième maison d'Israël. Et bien entendu, il redevient hébreu, mais il a une origine juive. Je vous dis des choses qui sont énormes. Que les Juifs avaient oublié qu'ils étaient d'origine hébraïque. Et alors, les Hébreux d'aujourd'hui, les Israéliens, ont comme problème de ne pas oublier qu'ils sont d'origine juive. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de redevenir Hébreux compte tenu du temps de mémoire de l'histoire juive. Mais qui est, si j'ose dire, bien qu'en français ce mot est un peu trop accusé, qui est d'une certaine manière la préhistoire de cette troisième maison d'Israël. Et la troisième maison d'Israël, d'une certaine manière, est contemporaine de sa propre préhistoire, puisque l'histoire du peuple juif continue autour de la troisième maison d'Israël, et tout cela est un monde de problèmes que vous connaissez, que nous connaissons, mais qu'il s'agissait d'identifier. Il y a 2000 ans, les Hébreux sont devenus les Juifs, et de notre temps, 2000 ans après, les Juifs redeviennent les Hébreux. Or, cela déclenche les problèmes que nous vivons en tant que société de l'État d'Israël actuel, d'un côté vis-à-vis de l'extérieur, de l'autre côté à l'intérieur. Je vais prendre quelques exemples très rapides. Je veux dire, il n'est pas étonnant que retrouvant l'identité hébraïque, eh bien le monde entier la découvre avec nous, et que se retrouvent toutes les difficultés dont la Bible avait parlé au temps des Hébreux. Notre maître nous disait souvent que la Bible, c'est notre carte d'identité. Eh bien, nous sommes arrivés à un temps où nous pouvons lire notre carte d'identité. C'est passé, au moment de l'émergence de l'identité hébraïque dans l'universel humain, toute une série de réalités, de tensions, de conflits, d'oppositions contre l'identité hébraïque d'Israël que nous redécouvrons de notre temps, à l'extérieur et à l'intérieur. Avant d'y arriver très rapidement, je voudrais justifier cela, parce que les Juifs se sont habitués à projeter a posteriori de façon anachronique le terme d'identité juive sur les Hébreux. J'ai souvent entendu par des penseurs très authentiques ces anachronismes-là. Parler du judaïsme de Moïse. Moïse n'a jamais été juif, c'est un Hébreu. Parler du judaïsme d'Abraham. Parler des juifs en Égypte. Tout ça est d'un anachronisme énorme. C'était des Hébreux. Mais il faut entendre que les juifs sont d'origine hébraïque. Ce sont les Hébreux de l'exil. Mais que les Hébreux, c'était les Hébreux. Et les juifs sont les juifs. Il y a un anachronisme absolu. Et ce que j'indique, c'est que nous allons le lire dans la Bible elle-même. Je vous donne très rapidement deux références. On nous parle d'Abraham pour la première fois comme Abraham l'Hébreu. C'est au chapitre 14 de la Genèse. Abraham l'Hébreu. Rashi, très finement, avec l'humour que vous lui connaissez, il a même fini par donner son nom à cette maison. Plus d'humour que ça, il n'y a pas. Okay. Et bien, nous dit, on appelle Abraham l'Hébreu, parce qu'il parlait la langue de Hever, l'ancêtre des Hébreux. Hever, qui a donné son nom à l'adjectif hébreu, qui est d'ailleurs un substantif, était un descendant de Shem et un ancêtre d'Abraham. Alors, qu'est-ce que faisait un homme de la civilisation chaldéenne à Ur-Kasdim parler la langue d'Hever, parler la langue de Hever? Il était hébreu en exil. Un peu comme les Juifs de notre temps, qui parle l'hébreu en Scandinavie. Qu'est-ce que fait un Scandinave à parler l'hébreu? C'est un juif. J'ai compris ce que je veux dire. Eh bien, je crois qu'il y a une analogie très frappante entre ces deux noms d'Abraham. Abraham, le premier nom, et la Gemara dit, son identité était araméenne, Av le Aram, et qui parle l'hébreu,